Europe Matin, le 7-9.
Moins 13% de naissances en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. C'est inédit depuis 1975. L'INSEE détaille cette chute vertigineuse des naissances. Le contexte, c'est celui du Covid-19. Alors, faut-il s'en inquiéter? Est-ce vraiment la pandémie d'ailleurs qui est en cause ou est-ce qu'il y a une tendance de fond? Mon invité ce matin, c'est le démographe Hervé Lebras, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Également directeur de recherche émérite à l'Institut National d'études démographiques. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
On a besoin d'y voir plus clair. Et vous êtes là pour ça, 9 mois avant le premier confinement. Quand il n'y a pas d'électricité ou de télé, par le passé, on avait tendance à imaginer avec le sourire qu'on connaîtrait un mini baby-boom. Là, c'est tout l'inverse.
Oui, à chaque, je dirais pas catastrophe, mais à chaque problème, on dit la même chose. On l'avait dit à propos de la grande panne d'électricité de New York. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit.
Ah
parce
bon
que, oui, on l'avait vu pour New York et là, on le vérifie parce que dans une situation de crainte, de panique, d'incertitude, ce n'est pas que la fécondité baisse, si vous voulez, mais c'est que les couples remettent à un peu plus tard la naissance d'un enfant. Donc,
je le disais, il y a 9 mois pile, on était en plein premier confinement et je parlais du pic pétrolier, des années 70, on retrouve ces baisses de natalité dans d'autres crises, la crise de 29 par exemple.
Assez peu, hein, la crise. Curieusement, là, parce qu'en France, la crise de 29, elle a mis du temps à se déclencher. Même d'ailleurs pour la crise pétrolière, c'est en fait les conceptions ont commencé à baisser seulement au début de 1975, après un an, quand on s'est aperçu que le chômage augmentait rapidement, que la crise durait. Il n'y a pas eu un effet au fond flash, comme on a maintenant avec le confinement. Là, vraiment, la mesure de confinement a pesé pour beaucoup.
Alors, ces enfants qui ne sont pas nés, c'est toujours bizarre à dire comme ça, ces enfants qui ne sont pas nés. Alors, on entend plusieurs choses. Il y a la peur de contaminer son bébé à ce moment-là, 9 mois avant, je vous le rappelle. La fermeture des centres de PMA aussi pendant le confinement, ça joue peut-être. Est-ce que ce sont des projets familiaux reportés ou annulés, Hervé Lebras, dans ce cas-là?
Presque sûrement, c'est des projets reportés. C'est très rare, si vous voulez, qu'il y ait un événement brusque qui modifie des tendances de long terme comme la fécondité. Les changements de régime, si on peut dire, de la fécondité, c'est une fois tous les 20 ou 30 ans.
Parce qu'il y a une baisse, si on regarde, si on dézoome, si j'ose dire, par rapport au Covid, il n'y a pas que ça, il y a une baisse tendancielle depuis 2015-16.
Oui, même un peu avant, mais c'est une baisse lente. On était à peu près à 2 enfants en moyenne par femme vers 2010, et puis là maintenant on est à 81-82. Donc oui, il y a une baisse tendancielle. À peu près 2% était prévu comme baisse pour cette année. Et c'est une baisse qui, justement, là, risque de durer. Parce qu'après tout, on est à la plus haute fécondité de l'Union européenne. Donc c'est logique qu'à un moment ou à un autre.
La France et l'Irlande, hein, traditionnellement très haut en termes de.
Oui, traditionnellement. Bon, l'Irlande, oui, mais la France, tout au long de son histoire, la France était en queue de peloton.
Ah bon,
j'ai
l'impression
siècle
d'avoir toujours entendu ces dernières années que la France est championne, mais c'est peut-être une question.
Non, à partir des années 50, si vous
avec
voulez.
Avec beaucoup de politesse, c'est sûrement une question de génération, Hervé Lebras. Là, on est dans la même tendance que nos voisins, cela dit.
On glisse vers la tendance de nos voisins. Ils sont quand même plus bas. Hein. Ils sont, disons, à 1,5. L'Allemagne est à 1,45. Les pays latins sont nettement plus bas, ainsi que les pays de l'Est. Et puis, les pays du Nord sont à peu près à notre niveau. L'Angleterre, les pays scandinaves. Donc, logiquement, on pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un baby-boom ou une reprise. Donc, on devrait glisser lentement. Mais ce n'est pas l'incident du confinement qui va changer grand-chose.
Alors, je voudrais profiter de votre présence pour évoquer l'autre extrémité de la pyramide des âges, Hervé Lebras. Un an d'épidémie de coronavirus, plus de 85 000 morts en France sur l'année 2020. Est-ce qu'on mesure un choc Covid sur la mortalité?
Oui, alors, si on prend les décès, il y a un choc Covid, mais en termes de mortalité générale, ce choc sera pas très fortement ressenti. Quand l'INSEE a donné les chiffres d'ailleurs, bien que en 2020 la mortalité ait augmenté de 7,3%, ce qui est beaucoup, l'espérance de vie ne diminuera qu'une demi-année.
Oui, mais l'espérance de vie qui diminue, c'est pas anodin non plus.
Oh, c'est pas anodin, ça c'est arrivé auparavant. Il y a pas si longtemps, il me semble que ça doit être en 2014, elle a dû diminuer de un tiers d'année. Donc c'est des mouvements qui sont quand même petits. Il faut prendre la mesure que si on prend 1946, donc on est sorti de la guerre, entre 1946 et maintenant, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Donc perdre une demi-année, oui, c'est...
Ça ne veut pas dire que les bébés qui naissent maintenant vont vivre 6 mois de moins, forcément.
En plus de ça, non, parce que quand on entre dans le détail, le calcul de l'espérance de vie, il se fait en supposant que le risque de décès à chaque âge est le même que celui qu'on observe en 2020. Donc c'est une espérance de vie calculée dans l'idée qu'il y aurait la mortalité par Covid chaque année jusqu'à la mort de ce bébé.
Ouais, c'est dur de le prévoir.
Complètement... En revanche, si on pense que ça dure une année seulement, l'espérance de vie perdue pour un bébé, c'est 3 semaines et demie.
Vous relativisez, Hervé Lebrun, en fait, les conséquences de la pandémie sur la démographie, sur la mortalité en particulier.
Oui, alors il y a des conséquences évidentes qu'on a sous les yeux. Je crains que les conséquences soient beaucoup plus fortes, et ce que disent un certain nombre de médecins, sur la morbidité, sur ce qu'on appelle le post-Covid, c'est-à-dire sur les séquelles pour une partie importante des personnes qui ont été atteintes. C'est là qu'est, je pense, le gros problème, parce que la mortalité elle-même... Je vais vous donner un autre exemple. L'INSEE calcule qu'il y a eu 45 000 décès de plus en 2020 par rapport à 2019. Quand vous regardez les décès par Covid, c'est 65 000 sur la même période. Alors vous me direz, d'où vient la différence ? Ben, il se trouve qu'il y a eu moins de mortalité sur la route,
ben oui.
Il y a eu moins de mortalité par la grippe, il n'y a eu que 4 000 au lieu, disons, en moyenne de 10 000. Et puis, même si on note ces 1 000 et ces 6 000 en moins, il y a 18 000 encore en moins. Et dans ce cas-là, on pensait qu'en fait, il y a des décès qui ont été accélérés par le Covid.
Mais c'est
des personnes très âgées, en mauvais état, et qui seraient de toute façon décédées. Ça a simplement avancé quelques décès, comme ça avait été le cas d'ailleurs lors de la canicule.
Merci Hervé Lebrun, c'est toujours passionnant la démographie, votre science, mais on a besoin de vous pour y voir plus clair dans toutes ces courbes et ces pyramides. Le démographe Hervé Lebrun était mon invité, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.